아치야.
Au fil des pages, des thèmes, des livres, des découvertes. Une émission proposée par Pérouse et Saténic sur Hype FM.
Marie-Hélène a été le seul amour de ma vie. Avons-nous été amantes? Nos élans sont-ils demeurés platoniques? Amour sanctuarisé parce qu'elle est morte tandis que j'entrais dans la lumière à ses côtés, ou amour véritable, amour de jeunesse, tâtonnement, amour ou main tendue, amitié idéalisée car elle, Marie-Hélène, me traitait en égale même si j'étais plus jeune et peut-être ingrate. Elle m'a permis d'exister et de vibrer, de croire en moi, en la vie. Pourtant, si nous avions connu la fin de l'histoire dès nos premiers mots échangés ou nos regards titubants, elle aurait eu toute légitimité à me fuir. Marie-Hélène n'a pas été une simple amie, une copine de vacances. Je l'aimais. Encore aujourd'hui, ce sentiment est prégnant. En me quittant pour de bon, à jamais, Marie-Hélène a emporté mes sensations, mes sens, ma part insouciante et fragile, mon cœur et mon hippocampe. Son père, en l'assassinant, a aussi massacré mon adolescence. Il a brisé le reste de ma vie et m'a enterrée vivante. Il est tout autant mon meurtrier. Qu'importe que je sois en vie puisque je suis anéantie. Qu'importe que j'ai réussi à survivre, puisque j'erre tel un fantôme depuis. Notre vie, à Marie-Hélène et moi, se résume à cette couleur rouge.
Chers amis d'Hype FM, bonjour. Bonjour Saténic.
Bonjour Pérouse. Bonjour à tous.
Oui, alors une première lecture assez atroce, oui, qui nous parle d'un amour de jeunesse et d'un meurtre horrible.
Un infanticide.
Un infanticide, oui, qui se termine sur ce mot rouge. Rouge, oui, les enfants rouges. C'est le titre du roman d'Isabelle Kevorkian qui a été publié fin 2013 aux éditions Jérôme de Betzinger. C'est le deuxième roman d'une jeune auteure née à Toulon qui partage sa vie entre la Bretagne, que nous retrouvons d'ailleurs dans son livre, et la région parisienne. Sans s'annoncer comme telle, Les enfants rouges a le rythme et le suspense d'un roman policier, même si l'enquête de l'héroïne ne concerne pas le meurtrier dont l'identité, comme vous le voyez, comme vous l'avez constaté au cours de notre première lecture, s'est révélée dès le début du livre. Anne, la narratrice, poursuit un autre but, découvrir les circonstances exactes du meurtre de son mari Marie-Hélène par son propre père au cours d'un véritable massacre familial dont seule la mère a réchappé par hasard. Le père a tué sa fille, son fils a tenté d'assassiner sa femme et s'est lui-même tué ensuite. Donc elle essaie de découvrir les circonstances exactes de ce meurtre et peut-être l'expliquer, comme s'il était possible d'expliquer ou de comprendre un acte aussi horrible. En effet, ce crime survenu plus de 20 ans auparavant continue à l'obséder. Mais pourquoi décide-t-elle soudain de se plonger dans ce passé si douloureux?
Allô? Ma voix est aussi engageante qu'une hutte au toit de tôle ondulée abandonnée en frontière d'un territoire dénudé sous un ciel de cendres. Je pensais appuyer sur la touche rouge pour refuser l'appel quand mes doigts ont été aimantés par la verte. Répondre. Bonsoir, Anne? Oui. Surprise, je repose mon verre de vin sur la table du salon et rassemble mes pensées. Je ne reconnais pas la voix qui m'apparaît déterminée et sûre d'elle. 21 heures et des poussières. J'envisageais une soirée d'ermite, alanguie sur mon canapé avec mon verre et l'esprit vagabond. Je pensais mûrir, ainsi enivré, mon prochain roman et commencer à noircir des carnets de notes. Le chat avait pointé le bout de son nez, comme par miracle, pour me tenir compagnie et m'inspirer quand mon pouce a appuyé sur la touche d'appel. Étrange histoire que je vis avec cet animal, le chat des voisins. Ils viennent d'emménager, nous habitons, eux et moi, sous les toits. Un matin, tandis que je sortais de la douche et que je remontais dans ma chambre me vêtir, j'habite un duplex, Ce chat était là, très à son aise. Il reniflait partout, en toute tranquillité. Il m'a prise au dépourvu. Quelle stupeur, moi, désemparée, lui, indolent, me fixant. C'était à se demander qui était le maître des lieux. Ses yeux verrons et fiers, lumineux de tendresse, m'adressaient une telle intensité qu'il m'a conquise dans l'instant. L'espace-temps de l'appréhension a été celui des contes orientaux pour enfants, lorsque le prince charmant était perdu d'amour pour sa belle en une page aux dessins enchanteurs, outrageusement colorés. Depuis, il entre et s'échappe par le vasistas, à sa guise. J'étais dans cet état-là, prête à lâcher prise, au cœur de ma solitude bénie. De retour à la maison, après une journée harassante à enquêter sur un sujet sensible, je suis écrivain et journaliste, je m'étais engouffrée sous la douche et abandonnée au pouvoir de l'eau, divin et libérateur, je me sentais propre, dépolluée, désinhibée et en veine d'inspiration. Je me croyais d'attaque pour échafauder ma prochaine histoire. Puis j'ai débouché cette bonne bouteille de vin et le chat est arrivé. Je prenais autant de plaisir à passer mes doigts sur ses poils soyeux que lui à se laisser choyer. Nous demeurions lascifs et bien heureux. J'aurais dû me douter que cette humeur béate, ce moment extatique ne pouvait pas durer. Peut-être ce chat symbolisait-il une annonce? Était-il une sorte d'archange, la réincarnation de Gabriel? Soudain, je me suis sentie impatiente et nerveuse, et cet appel a contribué à me déconcerter. « Bonsoir, c'est Jérôme. Jérôme Blanc. Tu te souviens ?»« Non, pour être honnête, je ne me souviens pas. Jérôme Blanc, je fouille dans les tréfonds de ma mémoire, et me revient peut-être un élève de classe, collège, lycée, les années 80. Que me veut-il ? C'est de cette manière que tout a commencé, l'année de mes 40 ans, avec ce chat parachuté comme un obus dans ma vie.
Oui, cet appel d'un condisciple du passé, ce chat d'ailleurs étrange, qui d'ailleurs appartient à une espèce très rare de chat du lac de Vannes, précisera l'auteur par la suite. Bon, et puis tout commence. Se déclenche alors chez Anne un violent processus de mémoire qui la pousse dans une quête effrénée, irrationnelle, d'un passé qui semblait enfoui, même s'il laissait un certain malaise auprès de la narratrice.
J'ai peur de me laisser aller à cette ressouvenance avec eux. Peur de soulever le tapis de l'adolescence et de m'apercevoir que la poussière n'a jamais été aspirée. Elle est emmagasinée, sale et énorme, comme une tumeur incurable. J'ai peur de creuser, nettoyer. C'est étrange, cette référence au tapis sous lequel on cache la saleté par commodité. Ces petits arrangements me rappellent mes grands-parents arméniens. Ils tissaient des tapis en soie, chatoyants et raffinés, tout le contraire du kitsch et des dorures qui encombraient leur maison, ce lieu mortel scandé par la pendule murale. Il ne fallait rien prononcer de dérangeant chez eux, rien remuer. Il s'agissait de se taire, demeurer invisible. Parfois, c'était injuste. Quand mamie m'arrachait mes vêtements ou mes jouets pour les offrir aux autres petites filles du village, quand mamie bafouait ma mère parce qu'elle était française et qu'une française dans la famille, c'était la honte. Mon père rompait le schéma. Quand cette vieille acariâtre sortait le martinet ou la règle en fer parce que j'étais là, juste là, l'enfant de la honte. Ils affirmaient ne pas comprendre ni parler le français, mais cela aussi facilitait la complaisance qui les caractérisait. Après Marie-Hélène aussi, la culture du secret a triomphé. La culture du secret triomphe toujours des massacres, des violences et des trahisons.
Cette dernière phrase du livre, comme d'autres brefs passages, révèle le désir d'Isabelle Kevorkian de mettre en perspective, à travers cette histoire de massacre, une histoire plus personnelle et un passé beaucoup plus lointain encore, un passé familial beaucoup plus lointain. Mais le premier degré de cette recherche étant bien sûr la tuerie concernant la famille de Marie-Hélène, Isabelle Kevorkian, dans un récit touffu, un style haletant, entraîne le lecteur dans l'obsession quasi morbide de son personnage, qui finit d'ailleurs par perdre pied et être réellement malade. Rien n'arrête Anne dans sa quête. Ni les difficultés juridiques ou administratives, ni les mises en garde de ses proches. Il lui faut absolument découvrir cette vérité qui lui échappe et qu'elle recherche dans les journaux, dans les commissariats, dans les cimetières, dans les églises. Cette vérité devient l'enjeu essentiel de sa vie et pour la trouver, elle utilise aussi, enfin elle utilise tous les moyens qui sont mis à sa disposition, et même les forces occultes, comme la voyance. Elle va effectivement consulter une voyante qui au départ ne voudra pas lui parler et ensuite lui dira des choses qu'elle interprétera, le spiritisme ou même des forces religieuses comme la prière ou même l'exorcisme.
J'entre dans cette petite église située dans une ruelle du 10e arrondissement. Beaucoup de noirs sont là, recueillis avec un respect inimaginable. Quelle piété! Des jeunes femmes en pleurs, des hommes et des femmes avec des dossiers sous le bras, des photos, des objets, du sel et de l'eau. Les fidèles se connaissent, parlent au prêtre avec familiarité. Un prêtre s'avance vers moi. Je lui explique que j'aimerais être exorcisé. Il éclate d'un rire sonore et me tend un opuscule qui explique où je me trouve et me précise de rester jusqu'à la fin de la cérémonie. C'est très important si je veux recevoir la Sainte Onction, être purifiée, absoute. La diaconesse arrive et l'Église prie « Je te salue, Marie ». Je connais chaque mot, chaque virgule de la prière apprise dans ma plus tendre enfance, et je prononce la prière en communion avec ceux qui m'entourent. Comment ces paroles ont-elles pu s'imprégner aussi longtemps en moi, indélébile? Ensuite, nous sommes invités à prier pour la nature, pour la guérison, pour le ministère de Notre-Dame, mère de divine compassion, et l'Ave Maria clôt cette séquence. Les prêtres font leur entrée en une longue procession pour la Sainte Onction. Tout le monde ici connaît l'hymne d'entrée. On invoque le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puis c'est l'appel de l'ange de guérison et nous nous agenouillons pour le confiteor et l'absolution avant de nous asseoir. J'assiste, béate, à la lecture des Écritures et comme tout le monde, je récite le Veni Creator. Certains le chantent avec allégresse et passion, s'inclinent même. Ceux qui le désirent s'avancent un à un au banc de communion pour recevoir l'onction, ce que je m'emploie à exécuter. Le célébrant, aux yeux fermés et en semi-transe, prononce « Par le nom qui est au-dessus de tous les noms, par la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'exorcise toutes les influences du mal afin que vous soyez parfaitement purifiés pour recevoir le sacrement » de la Sainte Onction. Il trempe son pouce dans de l'huile et m'en enduit le front en un signe de la croix et en parole. Au nom du Seigneur Christ et en invoquant l'aide du Saint Raphaël, je vous donne la Sainte Onction afin que vous puissiez obtenir le repos de l'âme et du corps dès maintenant et à jamais.
Donc séance d'exorcisme qui va en quelque sorte clore ce roman. Il est évident qu'elle va finir effectivement par découvrir la vérité, une vérité qui est assez horrible hein, et qui va petit à petit se révéler à elle avec toutes les démarches qu'elle va entreprendre. Et puis elle va elle-même retrouver une certaine paix grâce au roman qu'elle va écrire, le roman que nous venons de lire, qui sera publié, qui lui permettra aussi de retrouver la paix, hein, une autre forme d'exorcisme, certes. Et puis, à travers ce roman, il y avait aussi, comme nous l'avons vu, une espèce de quête sur ses propres origines, quête qui trouvera aussi son aboutissement. Donc, c'est ce que nous voyons, effectivement, à l'extrême fin du roman.
Des deux parents, lequel était le plus criminel? Celui qui était passé à l'acte, celui qui avait gardé le silence et avait permis que le massacre soit commis puis oublié. Le lendemain, je retourne sur la tombe de Daniel, l'assassin. Comme dans la Bible, on a jeté Daniel dans la fosse aux lions sans savoir. En apparence, il était le véritable coupable. À côté de lui, la tombe de mon ancêtre, Kevork Hovsepian. Et si c'était cela dont je devais m'enquérir, mes origines? Je suis lasse, le monde est trop vaste, la vie démesurée, rien n'est taillé à mes mesures. De retour à la maison, je m'installe à mon ordinateur, clique sur le net et commande l'extrait de décès de ce grand-père. J'aurai les premiers éléments. C'est ainsi que je suis partie en quête de mes origines. C'est ainsi que ma vie a débuté. L'année de la publication de mon histoire. J'allais fêter mes 46 ans. Bientôt, ce serait la commémoration du génocide arménien. Le temps était-il venu de me rendre sur cette terre de mes ancêtres?
Et c'est ainsi que se termine le roman assez complexe, vraiment à plusieurs niveaux, avec pas mal de mises en perspective, et puis, comme je vous l'ai dit, assez horrible en ce qui concerne le crime, le massacre. C'est ainsi que s'achève effectivement ce roman d'Isabelle Kevorkian, Les Enfants Rouges, aux éditions Jérôme Dau-Bessinger. Eh bien, chers amis, à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.